Le grand témoin. Grand témoin, hommage spécial à Papa Wemba dans ce studio avec moi, Dieudonné Ngangoura Mwenze, cinéaste, réalisateur du film, ou co-réalisateur du film La vie est belle, long métrage dans lequel Papa Wemba a joué. Avec lui dans cet entretien, nous allons parler de cet artiste, de ce musicien, de cette grande icône de la musique congolaise qui nous a quittés, comme vous le savez, le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il participait au Festival des musiques urbaines d'Anomabo, FEMUA en sigle. Monsieur Mwende Ngangoura, bonjour et bienvenue au studio de Radio Kapi.
Oui, très grand bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission.
C'est un plaisir surtout d'être convié à un hommage à Papa Wemba, qui, comme vous le dites, est vraiment une icône de la culture congolaise, une icône de la musique congolaise.
Vous l'avez fréquenté?
Je l'ai fréquenté. C'est quelqu'un que je considérais comme un ami et réciproquement. Et de toutes les façons, je faisais partie de ce qu'on pouvait appeler sa famille. C'est-à-dire, je pense que ici à Kinshasa et même dans la diaspora, il y a ce qu'on peut appeler une galaxie Papa Wemba, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui tournent autour de lui et qui se sentent un peu déboussolées du fait de son départ. Je ne sais pas, nous avions souvent l'habitude de nous rencontrer les uns les autres et souvent c'était en parlant de Papa Wemba et en pensant à lui. Et je vais vous dire qu'ils sont nombreux, plein d'amis, mais je ne peux pas citer des noms parce que ça va être trop long.
Voilà, vous nous parlerez de votre rencontre, comment vous avez rencontré Papa Wemba dans cette émission. Mais avant ça, on va faire une petite biographie sur votre personne, Ngangoura Mwenze. Dieudonné, vous êtes cinéaste, vous avez co-réalisé le film La vie est belle avec le Belge Benoît Lamy. Comment vous vous retrouvez dans le cinéma?
Ben, je me retrouve dans le cinéma parce que en 1970, à Bukavu, je termine...
Où vous êtes né, d'ailleurs?
Où je suis né, je termine mes études secondaires chez les pères jésuites. Et à ce moment-là, j'avais passé un examen qui était organisé par la coopération belge. J'ai eu la chance pour la ville de Bukavu, cette année-là, d'avoir été le seul à réussir ce concours pour obtenir une bourse d'études du gouvernement belge. Ce qui fait que je me retrouve en Belgique, mais la condition c'était que je fasse des études qui n'existent pas dans mon pays. Donc j'ai cherché dans beaucoup de domaines, jusqu'à tomber sur le cinéma. Et si le cinéma m'a intéressé, je dois dire la vérité, c'est parce que au cours de mes études en troisième et quatrième littéraire, j'ai eu un professeur le père Béens, qui était un féru de cinéma, et ensuite en avant-dernière année, en cinquième littéraire, le père de Wilde, qui était un vrai passionné de cinéma, donc il nous montrait beaucoup de classiques de cinéma français et européen, et nous devions souvent faire l'analyse de films, donc il organisait beaucoup de ciné-forums, ce qui m'a un peu donné le goût à ce qu'on appelle le septième art, c'est-à-dire le cinéma.
Qui n'était pas très développé à cette époque-là chez nous, au Congo.
Qui n'existait que parce qu'il y avait eu, avant l'indépendance, des missionnaires belges qui réalisaient des films spécialement faits pour le public congolais, du Congo belge, donc je parle à cette époque-là. À Bukavu, nous avions notamment un père blanc qui s'appelait le père Roger Develot. C'était le monsieur cinéma de la ville de Bukavu. Bon, c'était une époque où nous avions des projections en plein air et souvent la nuit. Il faut dire que c'était pour nous les seules occasions d'être dehors après 20 heures. Nous n'avions jamais de permission de nous retrouver dehors dans la soirée. Et on affichait un grand drap dehors. Et avec ça, il y avait un appareil de projection qui montrait des films avec des Congolais là, dans la série Matamata et Pilipili ou de ce genre-là.
Pourquoi vous avez décidé d'aller vous installer en Belgique alors qu'on a besoin de vous ici pour faire émerger le cinéma congolais?
Non, je suis parti en Belgique parce que, comme je vous ai dit, j'ai obtenu une bourse d'études qui m'a permis de...
Après vos études, j'ai dit.
De faire les études. Après les études, je suis revenu ici.
Vous êtes revenu, puis vous êtes reparti.
Et puis j'ai été professeur...
À l'INA, à l'ISTI
et au CEVOSA. Et ensuite, j'ai retrouvé l'actuelle mère de mes enfants, qui était une très grande amie. Bon, mais par contre, dans mon métier... Tous les films que j'ai toujours faits depuis lors concernent mon pays, donc ce sont des films congolais.
Des films congolais qui sont projetés à l'extérieur.
Parfois à l'extérieur aussi, mais toujours à l'intérieur.
Mais au Congo, il y a peut-être un tiers des Congolais qui connaissent vos films, Monsieur Gangoura. Comment vous expliquez cela?
Non, en fait, moi je constate par exemple qu'en général, un film comme La vie est belle est connu de tous les Congolais.
C'est le seul film qui est connu quand même de tous les Congolais. À part La vie est belle, vous avez produit plusieurs documentaires et même courts-métrages.
Et même d'autres longs-métrages. Comme pièces d'identité.
Pourquoi ça n'a pas autant des succès que La vie est belle.
La vie est belle a profité du fait que j'avais des vedettes de la chanson congolaise comme acteurs. Je parle de Papa Wemba, je parle de Emoro, de Pépé Calé, etc. C'était ça. Et aussi du côté du fait que le sujet était d'un genre très très populaire, c'est-à-dire la comédie. La comédie est toujours très bien acceptée par le grand public. Et c'est un genre qui est très apprécié. Et voilà, donc j'ai fait après le long métrage Pièce d'identité, qui était plutôt un genre comédie dramatique, c'est-à-dire moins accessible pour le très grand public. Bon, mais je pense par contre que ici au Congo, il n'a pas eu la carrière dans les salles populaires qu'il aurait dû avoir. Il faut dire qu'entre-temps, il y avait eu un très grand changement ici dans la ville de Kinshasa. Nous comptions une trentaine de salles de cinéma. Il y avait des cinémas un peu partout dans la...
Dans presque toutes les communes.
Dans presque toutes les communes, ciné Silouvangi, ciné Baudouin. Et la toute dernière salle vient d'être démolie, c'était le cinéma Palladium, ex-Palladium, qui s'est appelé plus tard Cinépolis. Et donc, dans le paysage cinématographique congolais, il y avait eu déjà beaucoup de changements. Très très peu de salles, Donc, impossible de diffuser même des films.
De faire connaître vos films.
Je dois dire que nos films sont souvent connus. Nos films, je parle de cinéma africain en général, sont souvent connus ici à l'intérieur de nos pays grâce à des chaînes qui sont basées à Paris.
En Europe, disons.
En Europe, c'est-à-dire du style TV5, du style Canal, France Internationale, CFI, ou alors ce qui s'appelait Canal Horizon et qui maintenant s'appelle Afrique Plus. Donc c'est comme ça que nos films finissent toujours par être vus.
En Afrique.
En Afrique.
Radio Capi, grand témoin.
Dieudonné Gangoura Moïse, cinéaste, co-réalisateur du long métrage La vie est belle, est celui que nous recevons dans ce studio aujourd'hui pour rendre hommage à Papa Wemba. Papa Wemba qui nous a quittés, comme vous le savez, le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA en sigle. Alors, puisque nous parlons des films et même de La vie est belle, film dans lequel Papa Wemba était acteur, je dirais même acteur principal de ces films. Pourquoi vous avez porté le choix sur lui?
J'avais porté le choix sur lui parce que d'une part, moi-même, je suis très mélomane et en ayant écouté quelques chansons de Papa Wemba, c'est un chanteur qui m'interpellait personnellement par rapport à mes goûts musicaux, par rapport à son charisme personnel. J'étais un de ses fans, donc j'assistais pratiquement tous les samedis soirs à ses concerts qu'il organisait dans la salle qui s'appelait Vis-à-vis, au rond-point Victoire. Et alors, donc j'avais pris cette habitude de le voir. Et puis un jour, j'étais lui rendre visite. J'ai dit, j'aime beaucoup votre musique. J'étais lui rendre visite une après-midi en sortant de l'Institut National des Arts qui était à Pont-Gavi, où j'étais pour me rendre chez moi à Bandal. Donc j'ai marché un peu, puis j'ai vu le village Molokai. Je connaissais l'avenue Kandakanda. Parce que je lui avais déjà demandé si un jour je peux passer chez lui. Il m'a dit, mais oui, passe, tout le monde est le bienvenu. Donc je suis passé là-bas. J'ai vu l'entrée du village, qui est très remarquable sur l'avenue Kandakanda, le village Molokai. Et puis j'ai parlé avec quelques-uns de ces musiciens, dont un que je connaissais, que tout le monde appelait Edino de Molokai, qui était qu'on appelait le chef du village. Donc le village avait un chef, c'était lui qui était un peu le surveillant général du village, et on l'appelait aussi James Last.
Et c'était ce jour-là que vous avez rencontré Papa Wemba, que vous avez échangé longuement avec lui?
Oui. Ce jour-là, je dis qu'on a échangé longuement, mais juste avant ça, j'avais des amis, des anciens que j'avais connus dans mon école de cinéma à Bruxelles. Je veux parler de Nzanga Souké Raymond, de Daniel Luntadila, de Matondo Kamanka, Matondo Victor Kamanka. Tous ces gens-là connaissaient Papa Wemba, donc quelquefois même, on s'était rencontrés dans des endroits où Papa Wemba est passé, et ils m'ont présenté à lui, et j'ai eu envie de bavarder un peu avec lui. Je me souviens qu'à ce moment-là, il m'avait dit qu'il est très sûr de lui qu'un jour, il chantera en Europe ou aux États-Unis. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui est sûr de lui et qui semble savoir ce qu'il veut.
Et il a fait.
Et il a fait, donc moi ça m'a vraiment épaté. Je me suis dit, bon voilà, il y a 10 ans, ce monsieur m'a dit qu'il pense qu'il allait dépasser les frontières congolaises, et il en avait envie, et il l'a fait, donc je me dis, ce n'est pas impossible. Il faut dire que pour moi, l'une des qualités que j'ai beaucoup appréciées chez lui, c'est le courage.
C'est un homme courageux.
Très courageux, qui ne recule devant rien, qui est ouvert à tous et à tous les univers, toutes les cultures, et je crois qu'il
toutes les générations, jeunes, vieux.
Oui, où qu'il soit, il trouvait toujours sa place. Exactement.
Mais lorsque vous lui avez proposé ce rôle de Nkourou, il n'a pas hésité, il a accepté facilement.
Il a accepté sans problème et ça aussi, ça m'avait surpris. Parce qu'il commençait petit à petit à acquérir cette réputation de jeune premier. C'est-à-dire aussi de quelqu'un qui connaît bien la SAP. C'est lui qui introduisait un peu la mode dans les milieux des jeunes.
Il a imposé un style vestimentaire.
Il avait imposé un style vestimentaire. Il avait même imposé un genre de langage, une façon de parler. Je me rappelle qu'il y a eu des mots en lingala que Papa Wemba avait inventé et imposé à la population congolaise. Pour des mots comme Jamousket, c'était lui qui sortait ça de sa bouche. Ou bien Kodia. Kodia, ça veut dire quand quelqu'un te dit non, non catégorique. Et puis d'autres phrases, des expressions. Nakana et Kakape Namandambuyako. Ça, c'était lui qui inventait tous ces termes-là. Et je trouve que il était très inventif, il a toujours été un homme qui aimait beaucoup créer et il pouvait créer au-delà de la musique. Alors en dehors de style vestimentaire, il y avait, comme je viens de le dire, le vocabulaire, il y avait la démarche, une démarche très rythmée, saccadée, que tous les jeunes adoptaient facilement. Donc c'était ça en fait.
Papa. Il avait beaucoup de qualités, mais il y a certaines personnes qui disent aussi que Papa Wemba prenait un peu la délinquance.
Oh, je ne dirais pas ça, parce que peut-être ça doit être des gens qui ne l'ont pas vraiment connu. Papa Wemba avait ce côté très léger quand on le voyait. Avec sa façon de chanter, tout ça, sa belle musique, sa façon de s'habiller, on aurait pu croire que c'est quelqu'un qui est très superficiel et très, très peu profond dans sa façon de vivre. Mais en réalité, moi, en parlant avec lui, j'ai toujours découvert un monsieur qui se respecte beaucoup et qui respecte les autres. Qui regarde d'abord son interlocuteur et qui le sent bien et qui était capable aussi de donner de bons conseils. Je sais qu'il aimait beaucoup ça, donner des conseils à des amis autour de lui. S'il faut te rappeler de respecter tes parents ou ton épouse et tout ça, c'est Papa Wemba qui est une des rares personnes dans les milliers de jeunes à vous mener là-dedans. Et aussi, bon, si vous oubliez de prier, de retourner à Dieu, vous pourrez le rappeler aussi. Je me souviens de certains de ses concerts où il exigeait que tous les musiciens se tiennent par la main avant le concert et tous commencent à chanter « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras » une ou deux ou trois fois. Et il était toujours très sérieux là-dedans. C'était une obligation vis-à-vis de ses musiciens. Je pense que c'est un homme qui avait sa profondeur et qui pouvait être considéré parfois comme léger quand vous me dites qu'on pense qu'il prenait la délinquance. Il aimait bien s'habiller avec des pantalons.
Il avait un style à vivre
mode, de la mode, tel couturier.
Il aimait les grandes marques,
Il connaissait bien toutes les...
Les grands couturiers.
Tous les grands couturiers du monde. Et il ne se gênait pas pour dire je vais porter ça. Sur le plan social, ça va être mal accepté. Même s'il faut que ça soit un pagne. Mais si c'est un pagne fait par Versace, il peut le porter. Je crois que ça ne le gênait pas. Que ça ne soit pas apprécié dans les milliers de personnes bien pensantes. Donc là, je dis que c'est aussi la preuve d'une grande liberté d'esprit.
Revenons sur le film La vie est belle, vous nous proposez le rôle, il accepte sans problème. Vous, personnellement, vous pensiez qu'il allait vraiment bien incarner ce rôle?
J'étais convaincu qu'il l'accepterait, qu'il jouerait bien ce rôle. Et parce que c'est beaucoup plus tard qu'il m'avait dit, tu sais, Dieudonné, tout ce travail-là que tu as fait, quand je regarde le film La vie est belle maintenant, après beaucoup d'années qu'il était fait, je vois ma vie là-dedans. C'est toute ma vie que que tu as raconté. Pourtant, tu ne m'as pas demandé de te raconter ma vie. Toi-même, tu as écrit, tu as tout imaginé, mais tu as bien imaginé concernant ma vie. Donc, il se fait qu'il s'est retrouvé.
C'est comme ça qu'il a bien incarné le rôle.
C'est comme ça qu'il a bien incarné. Moi, au tout début, quand je lui ai demandé ça, un jour, j'étais passé chez lui au village. Je lui ai dit, tu sais, je pense un jour faire un film de long métrage où tu aurais le rôle principal. Est-ce que tu accepterais? Alors, il m'a dit, quel genre de film tu penses? Je dis, c'est un film où tu ne serais pas habillé nécessairement comme un jeune premier, mais tu vas devoir porter des vêtements d'un villageois. Quelqu'un qui quitte le village, qui veut aller en ville, au tout début, tu seras habillé comme un petit villageois. Et ensuite, tu auras une tenue de domestique, et juste après tout ça, tu vas faire un rôle de Moukala, donc tu vas chercher des jeunes filles pour un grand patron. Il m'a dit non, il n'y a aucun problème, moi, c'est mon rôle dans le film, je le jouerai, ça n'a rien à voir avec moi, avec ma vie. Et donc je lui ai dit non, ce n'est pas un documentaire, c'est un film de fiction dans lequel on peut imaginer une histoire.
On dit que c'était une personne humble.
Oui, il était toujours très humble. Il n'a jamais compliqué ni attrapé la grosse tête.
Malgré le succès qu'il a eu.
Malgré le succès qu'il a eu, il restait toujours. Je me rappelle un jour, on a fait une conversation ensemble à Paris pour un film documentaire que des Gabonais voulaient réaliser. Et quand on a fait ce film, moi je lui ai dit, tu sais, parfois j'ai l'impression que si tu n'étais pas un garçon de la ville, si tu avais été au village, peut-être tu serais devenu un chanteur traditionnel tétela. Parce que j'ai déjà écouté de la musique de folklore tétela et j'entends qu'il chante comme toi avec une voix très très aiguë. Toi, il m'a dit, oui, je pense que c'est sûrement ce que je serais devenu dans la vie. Donc vous voyez le roi de la sape qui vous parle comme ça, vous dites, mais il ne se prend pas pour la personne qui a inventé le fil à couper le beurre.
Et après le film, vous étiez devenu très proche?
On est devenu très proche parce que forcément, on a eu, pendant la promotion du film, plusieurs occasions de voyager ensemble. On a voyagé dans des pays comme la Martinique, comme le Japon, je ne peux pas me rappeler de tout, mais on a eu plus d'occasions de se voir qu'avant. Et avec beaucoup de... Tout cela crée des souvenirs en commun et des sujets de conversation mutuelle.
Alors Papa Wemba, c'est près de 50 ans de carrière avec plusieurs albums à son actif. Est-ce qu'il y a une de ces chansons qui vous a le plus marqué?
Bon ben, un peu comme tout le monde, je pense que parmi ces chansons, la toute première, c'était Mère supérieure qui m'avait marqué par son côté très romantique. Et alors, je ne peux pas citer une chanson précise, mais tout son album Émotion, qui était produit par Peter Gabriel, j'ai trouvé que c'était un album de très haut niveau, même de niveau international. Et c'était, je crois, un de ses meilleurs albums. Là, je ne peux pas choisir quelle est la chanson que je préfère. C'est parfois difficile. Mais quand j'ai envie d'écouter une bonne musique, je prends ce CD-là, je mets et je me régale.
Alors, ça vous ferait plaisir d'écouter une de ses chansons?
Ben oui, avec plaisir. S'il vous plaît, Madame Conté Kelly, voulez-vous me faire passer une chanson de cet album-là?
D'accord, on va vous faire plaisir, mais également plaisir à tous les auditeurs de Radio Kapi qui nous suivent en ce moment. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Nana bungin
cette chanson Show Me the Way de Papa Wemba. Fait plaisir à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, hommage à Papa Wemba avec le cinéaste Gangoura Mwezé Dieudonné qui a fréquenté Papa Wemba, qui a travaillé avec lui dans le film, le long métrage La vie est belle. Avec lui, nous parlons de cet homme qui nous a quitté le 24 avril dernier à Abidjan. Alors Dieudonné Gangoura Mwezé, lorsque vous avez appris le décès de Papa Wemba, vous étiez où?
J'étais ici à Kinshasa, en famille, et voilà, je me lève souvent pas trop tôt, vers 9h30 du matin, je me lève et je vais au salon, où je trouve des membres de ma famille en train de regarder la télé et qui me disent, vous savez, Papa Wemba est décédé. Je dis, qui? Je dis, Papa Wemba. Dis quoi, vous ne nous croyez pas, mais regardez ici à la télé, un peu, vous allez voir, on ne parle que de ça. Je me suis assis pendant 5-10 minutes, et puis j'ai vu effectivement qu'il occupait le petit écran.
J'imagine que ça a été très dur pour vous.
Oui, quand même, oui, ça a été d'abord très dur, parce qu'on perd quelqu'un avec qui on a un lien. Et ensuite, le côté dur, c'est un peu plus tard que j'ai réfléchi à ça. Je me dis, mon prochain projet de film, il est encore l'acteur principal. C'est un film qui devait s'appeler « La vie est ici ». Avec comme objectif décourager la jeunesse africaine qui, avec, quand ils ont encore un peu d'énergie ou quelques moyens, ne pensent qu'à aller se émigrer en Afrique. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même une façon de priver l'Afrique de ses ressources humaines dont le continent a besoin pour se développer et tout ça, pour son économie, pour sa culture, etc. La vie est ici, c'est pour dire que nous sommes en Afrique.
On peut aussi bien vivre en Afrique.
C'est en Afrique, c'est l'Afrique que nous devons d'abord construire. C'est l'Afrique qui est notre base et ça devrait être le point de départ de toutes nos ambitions et de tous nos objectifs. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appelé ce film « La vie est ici ». Ça raconte l'histoire d'un... Bon, ça sert plus à rien de raconter maintenant parce que je crois que ce film ne verra jamais le jour.
Parce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre acteur.
Mais non.
Pour y remplacer.
On peut trouver un autre acteur, mais le film était la continuation de La vie est belle. Sur deux terrains. D'une part, il fallait que ça soit la suite du film du personnage court de La vie est belle. Ce personnage, ça se termine par le fait que il quitte le village et, arrivé en ville, il arrive à devenir une grande star de la scène musicale congolaise. Bon, en même temps, dans le nouveau film, La vie est ici, c'était ce même Kourou, la même personne donc, qui revient de l'Europe. En réalité, on comprend qu'il avait tout lâché à Kinshasa et il est parti rejoindre Kabibi en Europe, qui vivait maintenant là-bas, marié avec un monsieur belge. et il essaie encore de chanter pour Kabibi, il essaie encore de se rendre...
De séduire Kabibi.
De séduire, oui. Et Kabibi n'a plus le temps et lui répond en chanson, si moi maintenant j'ai ma vie, j'ai ma sécurité, je préfère ça que aller avec un petit musicien. Évidemment, le mari de Kabibi, qui est un monsieur presque âgé déjà, trouve les moyens d'appeler la police en disant, voilà un chanteur qui vient faire du tapage nocturne dans mon quartier.
Film intéressant, hein.
En dessous de mon immeuble, et alors...
On a même envie de voir ce film, on l'imagine déjà.
Évidemment.
Malheureusement.
Ce chanteur non désiré est arrêté par la police et renvoyé chez lui, comment on dit, refoulé dans son pays, au Congo. En Djili même, les agents de l'ordre l'arrêtent en disant, bon écoutez, nous on vous arrête, vous n'allez pas en faire une histoire. Si les Blancs vous ont arrêté, pourquoi nous on ne vous arrêterait pas? On l'arrête encore chez lui. Il doit expliquer ce qu'il avait fait. Et les policiers sont à ce moment-là étonnés de voir quelqu'un qui a passé tant d'années en Europe et qui revient les poches vides. Si je crois savoir qu'il y avait quand même un petit 10 dollars qu'on va lui laisser et dont il va se servir plus tard pour jouer au loto en espérant que ça lui rapporte quelque chose, mais ça lui rapporte rien.
Il a perdu même ses 10 dollars.
Il a perdu même ses 10 dollars.
Alors, de donner Gangoura Mouizi, dont la vie est belle, il y a eu une scène dans laquelle Papa Wemba se produit devant les gens, puis s'écroule. Exactement comme ce qu'on a vu à Abidjan.
Oui, effectivement. En fait, celui qui s'écroule dans La vie est belle, c'est plutôt Pépé Calé.
Ah, c'est Pépé Calé, oui.
Pépé Calé qui danse et qui tombe par terre. Et alors, on essaie de voir si on peut le ranimer, mais c'est trop tard. Et c'est à ce moment-là que notre personnage de Kourou trouve sa chance lui aussi de devenir une grande vedette de la chanson. Oui, donc c'était comme une scène prémonitoire.
Oh, voilà.
Alors, dans le même film, je pensais que, du point de vue sonore, nous avons aussi la voix de Emoro qui n'arrête pas de crier Kourou s'est tué,
oui, Kourou
s'est tué. Ce serait une scène qui conviendrait très fort au moment où nous voyons dans les actualités présentes que ces danseuses sont en train de danser devant la scène et ne se rendent pas compte que derrière elles il y a quelque chose
qui se passe.
Là il y a Kourou s'est tué. Et aussi dans le film Les habits neufs du gouverneur, nous avons aussi une scène de l'enterrement de Kourou. Au moment où nous mettons, voilà, il s'appelle pas Kourou, il s'appelle Makassi. Il est enterré et donc nous avons son cercueil avec sa photo et puis on descend son cercueil sous la tombe. À un certain moment, sa photo fait un petit clin d'œil à Bébé Tchanda qui dans le film s'appelle Petit Prince. Et voilà. C'est un peu pour dire quelqu'un est mort, mais il y a des personnes qui sont immortelles. Parce que les artistes sont toujours là.
Il reste immortel, Papa Wemba.
Oui.
Qu'est-ce que vous gardez de lui? Quel souvenir vous gardez de lui?
Beaucoup de belles chansons. Un homme plein d'humour, qui aime beaucoup rigoler. Une qualité d'observation très très aiguë. Je pense qu'il observait très bien. Il pouvait être ici et il nous voit tous les deux ou tous les trois. Et il regarde chacun, et voilà. Un homme très bon de cœur aussi. Il a toujours eu bon cœur. Parce que je me rappelle qu'au village Molokai, il avait même des enfants qui étaient des orphelins, qu'il gardait là comme ses enfants. Il a toujours voulu être dans ce rôle de papa.
C'est pourquoi tout le monde l'appelle papa aujourd'hui.
Oui, oui, et lui-même a toujours insisté pour être papa.
Mm-hmm.
Je crois savoir que dans le temps, on le surnommait Jules Presley dans le quartier. Et j'ai vu un jour des jeunes gens qui l'appelaient Jules. Il n'aimait pas beaucoup. Il dit, mais pourquoi vous ne m'appelez pas Papa Wemba? Donc j'ai compris que c'était le nom qu'il a pris, Papa Wemba, qu'il préférait plutôt que celui de Jules Presley.
La RDC a perdu un grand artiste qui a porté haut l'étendard de la musique congolaise.
Oui.
Pas seulement la RDC, même l'Afrique, le monde pleure,
oui.
Papa Wemba.
Oui.
Ça veut dire que ce n'était pas un petit monsieur, c'était quelqu'un de grand.
Ce n'était pas un petit monsieur dans la mesure où je me rappelle très bien que quand on était en train de tourner le film La vie est belle, il y avait eu un moment où, des moments où j'étais pris d'une certaine tristesse ou même une petite déprime. Parce que j'avais l'impression que mes collaborateurs, mes collègues belges prenaient, tiraient trop la couverture de leur côté. Et j'étais étonné parce que j'ai vu que c'est la seule personne de tous les comédiens, de tous les techniciens qui a remarqué ça et qui venait me dire, Dieudonné, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bon, je lui disais, mais moi, ça va pas du tout, je suis très découragé, donc mais il faut pas, tu sais. La vie, il y a des moments meilleurs, il y a des moments autres. C'était juste histoire de remonter le moral. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que c'était un homme très bon de cœur. Oui.
Alors, avant de nous séparer, Dieudonné Ngangura Mwenzi, quel héritage, selon vous, Papa Wemba, laisse-t-il au Congolais?
Il laisse sa musique, il laisse aussi cette image d'une star très décontractée, qui ne se prend pas trop au sérieux, qui n'a pas attrapé la grosse, il n'a jamais attrapé la grosse tête, et un homme qui a beaucoup observé ses semblables et son époque et qui a pu en parler de manière intelligente. C'est comme un sociologue, quelqu'un qui a étudié la société quinoise et qui était très autorisé pour en parler, qu'il connaissait très bien, avec une liberté de penser, liberté de s'exprimer qu'on n'a jamais vu tellement, sauf avec peut-être Franco avant lui, Luambo. Luambo avait aussi légué aux Congolais cette liberté de penser et cette poésie qu'on trouvait dans le choix de ses paroles et ce côté conteur. Il racontait souvent une histoire. Bon, je pense que c'est un héritage qui vaut la peine. J'ai encore vu aujourd'hui Manu Dibango à la télévision sur Afrique 24 et qui était en train de dire, de vanter le talent extraordinaire de Papa Wemba. Il dit, voilà, Papa Wemba, vraiment, ce dont on peut parler de lui en premier lieu, c'est d'abord son talent. Il dit, ça c'est au moins une grande évidence que c'était un homme talentueux. Donc pour moi, ça me fait plaisir que d'avoir côtoyé quelqu'un qui a été très apprécié sur tout le continent. Et j'ai vu une photo des bus au Kenya.
Ici aussi à Kinshasa.
Et ici aussi à Kinshasa, où tous les bus sont décorés de sa photo. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est toute l'Afrique qui lui rend hommage. Ce n'est pas seulement le Congo.
Merci beaucoup, Dieudonné Ngangura Mwenzi. Et c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission pour rendre hommage à Papa Wemba, qui nous a quitté, comme je l'ai dit, le 24 avril 2016 dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il participait au festival des musiques urbaines. Encore merci.
Les artistes nous laissent toujours leur esprit à travers leurs œuvres, qui elles sont immortelles. On les retrouvera toujours sur YouTube, sur plusieurs CD. Et donc cet esprit-là ne va jamais partir. Son esprit reste avec nous.
Son esprit reste avec nous. On va continuer à vivre avec lui à travers ses œuvres.
Bien sûr.
Merci. Grand témoin, hommage spécial à Papa Wemba, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que c'était dans ce studio avec les cinéastes Dieudonné Ngangoura Mwenze, réalisateur du long métrage La vie est belle, long métrage dans lequel Papa Wemba a joué. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son au micro qu'il écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.